Panorama des régions. Panorama des régions pour un tour d'horizon des faits marquants toutes les semaines avec nos journalistes en région.
Le célèbre prophète du rastafarisme et militant noir du XXe siècle, Marcus Garvey, disait ceci et je cite « Un peuple ignorant de son histoire est comme un arbre sans racines ». Fin de citation. Ces propos que je viens de citer sont de rigueur parce que ceux que nous recevons aujourd'hui sont bien ancrés dans la connaissance de l'histoire de leur royaume, une histoire vieille de 400 ans. Ils sont ici pour nous la partager et nous annoncer les festivités prévues à l'effet de fêter ces 4 siècles d'existence. Ouattara Kifinge, président de la commission culturelle, et Ouattara Daouda, président de la commission restauration. Bonjour messieurs.
Bonjour madame.
Soyez les bienvenus à Radio de la Paix.
Merci madame.
Merci beaucoup.
Nous l'avons dit à l'entame avec vous, nous allons parler des festivités liées aux 400 ans du royaume du Bounkani. Tout d'abord, pouvez-vous résumer brièvement l'histoire du royaume du Bounkani et son importance dans la région? Oui,
Monsieur Kifinge. Merci madame. Avant tout propos, je tiens à remercier d'abord Sa Majesté Ngueg Bulima, roi du Bouna, et la ministre Madame Kabanyalé. Pour revenir à votre question, le royaume Koulango, ses débuts. Il faut te dire que la chefferie en pays Koulango, il y a bien sûr un avant-royaume. La chefferie Koulango, d'abord, était des pouvoirs disparates dans les villages. Et ce pouvoir-là était tenu par les Goro. Quand vous entendez en Koulango « Goro Issie », ça veut dire « le chef de terre ». Et c'est eux qui avaient le pouvoir à l'époque. Et c'est ainsi que le neveu de ce Goro Issie-là, qui deviendra plus tard Bounkani, et comme chez le Koulango, le neveu est tellement important. Le neveu, il est important chez le Koulango. C'est pourquoi on l'appelle l'homme qui m'enlève dans la honte. L'homme qui me lave, l'homme qui me nettoie. C'est pourquoi on dit en Koulango, Nyonsie. Nyon la Nyon. Celui qui me lave, c'est mon neveu. Celui qu'on lave, c'est Nyon. Et voilà comment, lui, il est passé au trône. Et il a trouvé que c'est pas normal qu'on ait des pouvoirs dispersés. Et donc, il a créé un pouvoir central. Un pouvoir central et une très bonne organisation. Et voilà les débuts donc, de ce royaume Koulango de Bouna, il y a de cela plus de 400 ans.
Voilà. Donc voici comment tout a commencé
voilà comment tout
dans
a
le
commencé.
Bounkani. Ok, alors avec Ouattara Daouda, on va parler un peu de l'importance de ce royaume. Pourquoi ce royaume est si important pour cette région?
Ce royaume est si important pour cette région parce que 400 ans quand même pour un royaume, c'est pas donné. Parce que c'est le premier royaume de Côte d'Ivoire par rapport à la recherche de M. Gauthier. Dans ces documents, vous comprendrez pourquoi est-ce qu'on doit célébrer ces 400 ans. Parce que ce royaume, quand vous le voyez, c'est un royaume qui est très bien organisé par la succession des trônes, par ses habitants. Et vous comprendrez avec le doyen qui fait, quand il va vous donner les détails, vous allez comprendre très bien le fonctionnement et pourquoi ce royaume de Bouna doit être célébré.
Alors on va revenir donc sur l'histoire. Comment le royaume a été fondé? Vous nous avez dit que c'est un neveu.
C'est un neveu.
Qui a été le premier à créer le royaume.
Le pouvoir central.
Le pouvoir central.
Qui a créé le royaume. Il a mis une organisation telle que ça persiste jusqu'à aujourd'hui.
D'accord.
Alors, en pays Koulango, le roi n'est pas voté. Il n'est pas élu. Il faut être né prince.
Okay.
Et quand vous êtes né prince, il y a encore des sélections. Il faut être un homme qui dit la vérité en tout temps et en tout lieu. Un homme courageux et prêt à défendre son peuple. Et puis être un homme qui n'est pas belliqueux. Un roi ne doit pas être belliqueux. Donc, comme je le dis, il faut être prince. Mais comment on devient roi sur le trône du Bounkani à Bouna? Parce qu'après Bounkani, il y a eu des successions. Mais de nos jours, comment on vient au trône? Pour venir au trône, comme je l'ai dit, il faut être prince. Mais tout petit prince, d'abord, commence par la case de son père défunt, qui est roi et commande la case de son père. S'il y a eu décès d'un autre roi, tout le monde bouge. Les lignes vont bouger. Alors, celui qui était le dernier monte d'un cran, de case en case, et c'est des cases de roi jusqu'à la grande case de leur quartier. Alors, à Bouna, il y a 3 grands quartiers, d'où le triumvirat pour venir au pouvoir. Si vous arrivez au sommet de la dernière case de votre quartier, si c'est le quartier Gagobo Benou, ou bien quartier Piawarobo Benou, ou Kungadibo Benou, ça veut dire quoi? C'est les quartiers. Si vous arrivez au sommet, à la dernière case, en tant que prince, De là-bas, on vous sort maintenant pour aller commander un premier village. Tout ça, c'est votre formation. Mm-hmm. Et vous risquez de passer dans 6 villages comme ça avant de venir prendre le trône de Bouna. Donc, ça veut dire que si vous quittez votre maison, votre quartier à 20 ans, vous pouvez revenir prendre le pouvoir à Bouna à 60 ans, 50 ans. Voilà.
Alors, tout se fait étape par étape.
Étape par étape. Mm-hmm. Et ça fait que celui qui vient au trône à Bouna, c'est un homme aguerri et un homme mûr. Mm-hmm. Un homme mûr et qui sait commander. C'est pourquoi le commandement sur le Koulango, on appelle Yisere. Mm-hmm. Quand tu attends Yisere, ça veut dire le commandement.
Quel était donc le nom de la première personne, de ce premier neveu-là qui a créé ce royaume?
Le Bunkani en question, ce neveu-là, le nom Bunkani est venu comment? D'abord, sa maman était une femme Loron nommée Mantou, d'un village à Kodo, situé à quelques 60 km de Bouna. Et il avait ses frères aussi, mais qui étaient vers l'Ankara, quelque chose à Bouna là-bas. Et donc, la femme s'est déplacée pour aller rendre visite à ses frères. C'est ainsi qu'un chasseur qui est venu du Ghana a courtisé la femme et ils ont eu affaire des enfants, dont Bunkani. Mais au moment où on devait, la femme était en travail, il se trouvait que le monsieur a demandé la permission d'aller chez eux. C'est derrière lui que le travail a commencé pour l'accouchement. Donc, les oncles envoient rapidement un émissaire pour aller dire au frère, au monsieur, mais l'enfant qui va naître, son nom c'est quoi? Mm-hmm. Et c'est ainsi qu'entre le Ghana, la première ville du Ghana qui est Bolé et Bouna, il y a un fleuve qu'on appelle la Volta Noire. Et en arrivant, il s'est trouvé que le monsieur a déjà traversé la Volta. Et comme lui n'était pas Koulango, l'autre étant de l'autre côté de la rive, a posé la question, mais ta femme va accoucher, l'enfant a son nom. Et lui, il pense, comme il a dit son nom, lui, il pense qu'on lui demande encore des choses. Puisqu'avant de partir, il a tout mis à disposition. Bon, c'était quoi? C'était les gibiers, bon, un peu de fagots et tout ça. Il a tout donné. Maintenant, voilà un émissaire qui vient faire sa main comme ça. Moi, de l'autre côté de la rive, lui, comprend pas mieux Koulango. Maintenant, lui, il va demander dans sa langue, Bonokane, ça dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Et lui, il prend son cheval, il fait demi-tour. Et il arrive dans la cour, il dit aux oncles, ah, il dit, l'enfant s'appellera Bunkani. Okay. Tout simplement.
Mm-hmm. Donc c'est de là que part le nom.
C'est de là que part le nom Bunkani. Mm-hmm. Un guerrier très très puissant.
Mm-hmm. Voilà. Et qui est aujourd'hui le nom de la région.
Non, le nom de la région, par exemple, c'est pas Bunkani. Bon, le nom de la région, c'est Bunkani.
Oui.
Mais la ville de Bouna même, tous les Koulango, nous sommes tous les mêmes depuis Bouna jusqu'à Tanda. Et de Tanda jusqu'à Piaye, jusqu'au Ghana, à Badou et à Sekwa. Nous sommes les mêmes Koulango. Alors, le nom Bouna, j'ai dit ça pourquoi? Vous ne verrez jamais un Koulango dire « je vais à Bouna ». Non. Bouna, c'est Bona. G-B-O.
Oui.
Voilà. Miyak Bouna. Bon, maintenant, les Français ont écrit Bouna. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi. Ils ont écrit Bouna, sinon c'est Bona. Bona aussi a son histoire.
Mm-hmm. Voilà. Donc on y reviendra certainement. Et donc, on va rester avec Ouattara Kifenge, qui est donc le spécialiste de l'histoire du royaume de Bouna. Et on a vu un peu comment est-ce que tout cela a été fait dès le départ, comment le royaume est né. Et maintenant, après ces 400 ans, il s'est développé au fur et à mesure. Pouvez-vous nous parler des grandes étapes donc, de son développement?
D'abord, au temps du roi Bunkani lui-même, il a été un roi très conquérant. Il a agrandi son royaume. Et les territoires, les coins qu'il a conquis, il a placé soit ses neveux, soit ses enfants au pouvoir. Le royaume a été agrandi en son temps. Et la discipline régnait. Ça fait que le pouvoir Koulango, vous avez le pouvoir politique détenu par le roi, et le pouvoir de la terre, de tout ce qui concerne la terre, détenu par les Goroïsiens. Voilà. Et donc, dans un premier temps, voilà l'organisation qui est mise en place. Ensuite, conquérant pour agrandir son territoire. Mais après lui, il y a eu d'autres rois qui lui ont succédé. Mais chacun a eu à faire des réformes, mm-hmm, jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, quand vous prenez l'exemple du roi Ambigbelewo, c'est lui, par exemple, quand il y avait des cérémonies à Bouna, nos cousins de l'autre côté du Ghana les a chantés et ils venaient. Et ce que le Koulango donnait, on connaît. Et c'est quand lui, il est passé au pouvoir, il a dit que c'était excessif et qu'il fallait diminuer un peu. Donc, lui, il a été un roi réformateur. Bon, pareil que Issé Garangbo, de Gagoudi-Bombinou, qui a été un roi très conquérant, un roi très courageux. Les Koulangos ont eu beaucoup de combats. Hein. Voilà. Et donc, on a eu des rois comme ça, très conquérants. Mais tout dernièrement, il y a un jeune roi du nom de Issé Poro. Poro Van Yokoi. C'est-à-dire, un poisson ne se perd jamais dans l'eau. C'est le nom de ce souverain, paix à son âme. Lui aussi, il a envoyé quelques réformes. Avant, les épouses des rois Koulangos ne portaient pas de haut, là. C'est deux pagnes nouées à la poitrine. Et puis, bon, il y avait une coiffure spéciale, rien que pour les reines qu'on appelle Mora. Et quand lui, il est arrivé, il a dit que non, 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 nous ne sommes pas seuls Koulangos aujourd'hui à Bouna. On habite avec les Baoulés, on est avec les Guélés, on est avec les Didas, on est avec tout le monde. Dans les cérémonies, la femme du roi ne peut pas venir sans chemise, les épaules dehors, venir s'asseoir, ça ne présente pas bien. Alors, il va demander l'autorisation aux man pour que les femmes Koulangos, surtout la femme des rois, puissent s'habiller convenablement. Mm-hmm. Et c'est ce qui s'est fait jusqu'à nos jours avec la permission des anciens. Donc, il y a eu plusieurs réformes comme ça. Mm-hmm. Et surtout, le royaume tente de s'adapter aux réalités de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que Bouna, c'est la Côte d'Ivoire en miniature. Tout ce que vous voyez comme CDAO, ils sont à Bouna. Et d'abord, les Koulangos ne sont plus les seuls à Bouna. On a nos frères Malinké, on a aussi des frères Lobi, on a des Dagari, on a des Brifort, on a des Peul, on a des Mossi. Donc vous voyez, c'est la CDAO. Et donc voilà comment Bouna a amorcé doucement son développement jusqu'à aujourd'hui. Grâce à Dieu, le développement moderne aussi nous a atteints. On a un collège moderne, on a une gendarmerie, on a un commissariat, on a un préfet régional, et puis bon, on a le bitume, on a l'électricité. Bon, on ne se plaint pas. Mm-hmm. Au départ, ce n'était pas ça.
Et donc, Bouna se développe au fur et à mesure. Oui. Et vous disiez tout à l'heure que le neveu premier roi Bounkani, il a mis en place un système qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et là même, vous nous parliez du style vestimentaire des reines qui jusque-là n'avait pas été changé. On se demande donc comment est-ce que les traditions ancestrales ont été préservées tout au long de ces générations. Comment vous avez réussi à faire ça?
Très bien. D'abord, la préservation, parlant du costume par exemple. Vous allez voir que le roi Koulango, et d'ailleurs la majorité des Koulangos, s'habille dans une tenue qu'on appelle Kokora. Ça, c'est depuis Bounkani. C'est resté inchangé jusqu'à nos jours. On n'a rien ajouté, on n'a rien retranché.
Vous pouvez nous décrire, vu que c'est à la radio, il s'agit de quoi?
D'accord, vous avez le chapeau sous forme de chichia, là, mais il y a la manière de le porter. Et vous avez le boubou, là, qui est en cotonnade, fait à la main. Et puis vous avez la culotte, le demi-pantalon qui s'arrête au mollet, mais avec le bas très large pour te permettre d'avoir des mouvements sans se gêner. Et des sandales de roi. Mm-hmm. Alors, je parlais du bonnet que le roi Koulango porte. Le roi de Bouna est le seul à laisser son chapeau debout ou devant lui, partout où il passe dans son territoire, quand on dit Bouna. Quand vous entendez le Koulango dire « Bouna Sako », ça veut dire toute la terre de son règne, de son commandement. Où c'est... Quand lui va là-bas, son chapeau, il le maintient haut ou il abaisse devant. Il y a une bosse. Maintenant, les autres rois, en sa présence, ils mettent leur bosse là, soit à gauche, soit à droite, mais jamais devant. Parce que quand le roi est là, votre pouvoir cesse. C'est comme dans une enquête, une fois que le juge d'instruction est sur le lieu lui-même, qui est le directeur de l'enquête, tous les OPJ s'effacent. Voilà, et c'est comme ça. Quand lui, il est là, tout le monde s'efface. Et maintenant, comment ça a continué jusqu'à nos jours? Le pouvoir Koulango, dès que le roi a mal à la dent, tout de suite, le constat est fait par son chef de guerre. Parce que oui, il y a un chef de guerre, on a un chef d'état-major chez les Koulango à l'époque, qu'on appelle Ton Issié. Le Ton Issié décortiqué, Toi, mon Issier, ça veut dire le roi du sang. Celui de chef de guerre, celui de chef d'état-major. Et celui qui constate que le roi a mal à la dent. Parce que quand le roi est malade, arrivé à un moment, on ferme la porte, on ne peut plus l'assister. Aucun homme ne doit être là, puisqu'il ne doit pas rendre l'âme devant les gens. Et donc, son chef d'état-major Elle est seule de temps en temps qui vient voir le matin, le soir, le matin. Quand il constate ça, il y a aussi des cérémonies à faire. Et donc, maintenant, pourquoi ça continue directement? Sur le champ, il y a un remplaçant immédiatement qui vient d'un autre village qu'on appelle Yalo, à 30 km de Bouna. Et quand ce monsieur-là vient, il assure l'intérim pendant 3 mois jusqu'à ce qu'on trouve un autre roi pour l'introduire. Lui, son pouvoir de succession est terminé. Et donc, un pouvoir comme ça ne peut pas tomber. Ça se transmet immédiatement. Dès que le roi tombe, immédiatement, l'intérim est assuré. Jusqu'à nos jours, voilà comment ça marche.
Alors voilà qui est plus clair. Pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que vous êtes à Panorama des Régions et nous parlons aujourd'hui des 400 ans du royaume du Bounkani, au lieu situé dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes avec Ouattara Daouda, président de la commission restauration de la célébration donc de ces 400 ans. Et il sera chargé donc dans quelques minutes de nous parler un peu du déroulé des différentes cérémonies. Et nous avons aussi Ouattara Kifenge, qui est le président de la commission culturelle qui nous fait donc l'historique du royaume du Bounkani. Alors à présent, on va parler du tout nouveau palais royal qui est en construction. Déjà, pourquoi un nouveau palais?
Un nouveau palais parce que on a constaté que chaque fois que le pouvoir passe d'un quartier à un autre, les gens doivent se déplacer. Et on a quelque chose d'important qu'on doit déplacer. Et comme tout le groupe à Caen le savent, on a un tabouret à déplacer. Et on a aussi les reliques de nos anciens à déplacer. Alors ça posait problème. Et donc le roi Diarakorony II, paix à son âme, un grand visionnaire, un grand monsieur, a jugé bon d'avoir un palais une fois pour toutes, que d'avoir chaque fois un palais dans un quartier, un palais dans un autre quartier. Non. Les quartiers peuvent se succéder, mais le roi, il est au palais. C'est son palais. Et voilà donc la nécessité d'avoir un palais et de regrouper tous ces reliques-là en un seul lieu. On n'a plus à les déplacer au risque de les perdre. Alors, donc, on a préféré faire ça. Et quand vous serez là-bas, vous allez voir ce grand bâtiment avec un coin de musée et tout ça. Mais vous allez voir aussi des petites cases. Ces petites cases ont leur importance. Et sur place, les gens vont vous expliquer ce que c'est que ces cases-là. Mais ici, déjà, je vais vous dire qu'il y a 3 cases qui représentent les 3 quartiers lignages de Bouna. Et une autre case, je vous ai parlé de l'intérimaire. Lui aussi, il a sa case là-bas et il vient de Yalo. Alors, donc, voilà ce grand palais qui va rassembler tous ceux qui vivent à Bouna, un monument gigantesque.
Et en quelle année est-ce que cette décision de construire ce palais s'est prise?
Ça a été pris dans... De quoi, en 2009. Ouais, 2009. Dès la montée au pouvoir en 2008 du souverain Diarakorony II.
Et depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, ce palais est toujours en construction?
C'était en construction, c'est fini.
C'est fini cette année?
C'est fini, complètement fini.
Oui.
Et comme partout ailleurs, il faut d'abord demander l'autorisation des mânes. Si notre roi peut habiter cette maison, si oui ou si non, s'il y a des choses à faire, on le fait. Je crois que tout a été fait, tout est terminé. On n'attend que l'inauguration. Mais il faut te dire qu'on a été aussi aidé pour la construction de cette maison. Mais quand quelqu'un vous aide à faire votre champ, mais à la récolte, il faut penser à lui. C'est ainsi qu'on a des invités de marque qui viendront. Même s'ils ne viennent pas, ils vont avoir des représentants. Donc le chef de l'État est notre premier invité. Et donc la coupure du ruban et l'inauguration du palais se fera en sa présence. D'accord. Et ça, c'est notre souhait.
Daouda Ouattara, est-ce que l'inauguration de ce palais se fera pendant cette célébration?
Oui, c'est tout ça qui fait les 400 ans du royaume de Bouna. Parce qu'il y a l'inauguration des palais qui existe, comme l'a dit mon doyen Kifenge. C'est une opportunité aussi pour montrer un peu la richesse de Bouna. Pour montrer la richesse de Bouna, parce que ce palais, quand vous le voyez, c'est un joyeux architectural. Et comme le dit le doyen, ça a été pensé par notre défunt roi, qu'aujourd'hui, nous avons tous une pensée pour lui, avoir une idée de faire ce palais.
Quelle est la forme architecturale? Est-ce que c'est fait de façon traditionnelle, en forme de case, ou c'est des bâtiments modernes?
C'est des bâtiments modernes qui vont dans l'architecture des cases. Et quand vous verrez ça, vous allez vous poser la question, est-ce que ce n'est pas une case? Oui, c'est des cases bien, qui sont faites avec des agglos, avec des briques, avec des décors qu'il faut pour immortaliser tout ce qui a été roi dans la région.
Est-ce qu'il y aura des sculptures qui sont représentées?
Oui, tout ça, ça sera représenté, vous verrez tout ça. Sans que ça, on souhaiterait que Radio de la Paix soit avec nous ce jour-là.
Oui.
Pour comprendre, pour les deux jours d'activité qui vont se passer, on souhaiterait que vraiment vous soyez présents.
Et donc, le doyen Kifengé veut ajouter quelque chose?
Alors, à la suite du frère Daouda, il faut te dire que ça a été construit en respectant l'architecture même de chez nous. Parce que tout palais Koulango, avant d'entrer dans le palais, il y a, je ne sais pas comment on peut dire ça. En Koulango, on dit Zango. C'est l'entrée et la sortie. Il y a deux portes. C'est là on dépose d'abord les chaussures. Puisqu'on ne rentre pas au palais avec les chaussures. Jamais. C'est là où vous déposez les chaussures. Vous traversez, vous avez accès à la cour. Et puis maintenant, après la cour, vous avez l'endroit où le roi reçoit, l'endroit où il tient ses réunions, ainsi de suite. Et donc, c'est construit en respectant la norme de chez nous.
Et donc, pour tous ceux qui veulent plus de détails sur l'architecture de ce palais, eh bien, vous devez vous rendre à Bouna pour Bouna, les festivités.
On ne peut pas tout dire ici, sinon nos invités n'ont rien à découvrir.
Voilà donc qui est dit. Alors, évoluons dans notre émission, messieurs. Nous parlons maintenant des festivités en lien avec les 400 ans du royaume du Bounkani. Elles se tiendront donc sur deux jours, les 29 et 30 novembre prochains. C'est déjà proche, hein, c'est la semaine prochaine déjà.
C'est ça.
Et donc, il y aura un thème sous lequel ces festivités vont se tenir, M. Daouda?
Oui, il y aura un thème, c'est toujours les 400 ans. Il faut montrer un peu à la population de la Côte d'Ivoire quel est ce royaume. Donc, on a des panels, il y aura des conférences. Et bien avant ça, même le 28, nous aurons une parade l'après-midi avec toute la communauté. Nous allons faire une parade dans la ville de Bouna pour donner l'engouement à la chose. Le lendemain, nous serons dans les libations, comme il se doit, et appeler les mannes pour nous aider dans tout ce que nous allons faire. Et comme on l'a si bien dit, on a des conférences, on aura un village gastronomique où vous allez découvrir tout ce qui est aimé de Boukani. Vous verrez tout ça. Nos mamans sont déjà à la tâche. Donc, avec des conseils qui sont prévus lors de ces événements-là.
Tout à l'heure, le doyen Kifengé disait que le président sera là, le président de la République.
C'est notre souhait.
C'est lui qui parraine.
Oui.
C'est lui qui parraine, mais c'est notre souhait. Nous, on propose. Le chef de l'État va disposer.
À part lui, quels sont les autres invités spéciaux?
Bon, les invités spéciaux, après moi, il va achever. Il y a toutes les têtes couronnées de la Côte d'Ivoire d'abord. Nos frères Baoulé, les Agni. Partout, il y a un chef. Peut-être les têtes couronnées seront invitées. Et puis, il y a aussi les invités venant de l'extérieur, tels que le Ghana et puis d'autres pays.
Daouda, vous voulez ajouter quelque chose?
Donc, au niveau des autorités, comme on l'a dit, certainement le président va se faire représenter par le vice-président.
Oui.
Certainement, compte tenu de son programme et piloté par notre maman, notre parapluie de Bouna, Madame Kabanyale, qu'on a l'habitude d'appeler maman parapluie. Donc, avec sa sœur du ministre de la Culture qui sera avec nous, avec son frère Sindou Fofana du ministre du Tourisme qui sera aussi avec nous, sans compter notre grand éléphant du Gontour, monsieur le ministre Adjumani, qui viendra, comme il a dit, avec toute une délégation de Bandoukou. Ceux du Djouablin seront représentés avec le roi du Djouablin, lui-même qui se déplace en personne. On aura celui d'Abengourou, certainement, qui va se faire représenter. Comme si bien dit, ceux de Benoît, même chose, et ceux de Bassam. Donc, comme le disait le doyen, c'est les têtes couronnées. Mais on aura aussi nos parents du Ghana, du village de Badou. Et surtout, un village qu'on appelle Siokwa. Siokwa, quand ils viendront, que vous êtes vraiment là-bas, vous allez comprendre pourquoi ce nom Siokwa. Parce qu'ils sont des purs Koulango dans la tradition Koulango et ce village Badou. Tout ce qui est culturel, vous verrez, par le biais, comment est-ce que Bouna et le Ghana arrivent vraiment à sceller ces liens-là. Parce que nous avons des ancêtres qui viennent du Ghana. Et ce que nous, on a appris, il y a l'ancien président du Ghana, je crois, Maman. C'est vrai, ils seront en pleine élection, mais ils nous ont annoncé son arrivée.
Donc, de personnalités à cette fête. Et on aura aussi la visite des populations aussi, qui sont attendues. Vous attendez combien de personnes?
Notre estimation, nous étions à 1500 personnes. Mais avec ce que nous constatons, ce qu'on voit un peu partout, on peut aller dans les 2000, plus que 2000. Ça, je le dis parce qu'il y a un engouement. Que ce soit au niveau de Bouna, au niveau de la sous-région, tout ça, il y a un engouement. Même peut-être que le doyen n'a pas dit, mais on a invité le Moro Naba. Il nous a répondu favorablement. Donc, même s'il ne vient pas, c'est tellement, on aura une représentation du Burkina Faso.
Alors, la culture de Bouna, la culture du Bounkani sera fortement représentée. Est-ce que vous aurez des prestations de danse traditionnelle?
Ce que finalement n'a pas fait notre culture à nous,
oui.
Toutes les danses traditionnelles seront représentées.
Oui.
Et le jour de ce 29 après-midi, ça sera les danses traditionnelles qui vont se produire. Et ça sera des danses traditionnelles qui vont s'éclater dans les différents quartiers de Bouna. Pour donner l'engouement un peu, comme façon, vous voyez le massacre qui s'éclate dans les différents quartiers. C'est ce que nous avons produit ici à Bouna. Parce qu'on a plusieurs danses. Il faut faire de la promotion de tout ça. Pour qu'au moins, l'UNICEF puisse regarder aussi Bouna pour choisir aussi les danses là-bas.
Oui.
Voilà.
Alors, vous aviez parlé des mets traditionnels. Quels sont les mets typiques de la région du Bounkani?
Les mets typiques de la région du Bounkani, il faut te dire que le Koulango lui-même, il consomme beaucoup, 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 beaucoup l'igname. Après l'igname, il y a des moments où l'igname finit. Mm-hmm. On a 6 mois pour consommer l'igname et on a 6 mois pour consommer autre chose. Et cette autre chose-là, c'est le taux, comme on l'appelle ici. Ce que le Koulango consomme beaucoup en taux, c'est surtout le manioc, agba, agbazwa. Et ensuite, vous avez le mil, le petit mil. Parce qu'il y a le sorgho,
oui.
Et puis il y a le mil. Mm-hmm. Ça, le Koulango consomme ça. Bon, le maïs, c'est tout dernièrement que le Koulango consomme ça en taux. Sinon, voilà ce qu'on consomme beaucoup. L'igname et le taux. Mais il y a aussi des mets comme l'haricot, et puis il y a quoi, blimou, je sais pas, on peut l'appeler en français. C'est comme l'haricot, mais en gros.
Oui.
C'est gros, on casse, on enlève, prend le... Ça, on consomme ça aussi. La patate, mm-hmm. légèrement. Sinon, la nourriture du Koulango même, c'est le foutou. Et dans ce foutou-là, il y a plusieurs catégories d'igname. Mm-hmm. Vous en avez plusieurs. Il y en a que le Koulango ne vend jamais. Ces ignames-là, on les consomme sur place, mm-hmm. on ne les vend pas. Parce qu'il y a des ignames de couleur violette. Vous l'avez déjà vu une fois? Non.
Non.
D'accord. Et ces ignames-là, vous les verrez à Bouna.
Oui.
Voilà. Mm-hmm. Et puis bon, la fameuse igname que les gens aiment ici, qu'on appelle Kona, mm-hmm. sinon c'est Konu.
Ok.
Voilà. J'ai travaillé pour rien.
Et à part l'igname, au niveau des sauces, quels sont les types de sauces qu'on déguste là-bas?
Si, madame, on vous reçoit,
oui.
en tant qu'invité d'honneur, ou alors le frère Baoli qui est de l'autre côté du pupitre, si on vous reçoit, c'est quoi que le Koulango fait? Il faut d'abord une pintade, il faut de la pistache et une bonne igname, qu'on appelle chez nous vivant ou elamengo. Alors, l'étranger a droit à la sauce pistache, pintade et igname bien pilée. Je dis bien, il y a bien pilé. Voilà.
Voilà. Donc, pour tous ceux qui iront, sachez que vous recevrez une bonne sauce pistache avec oui. de la pintade et
oui.
de l'igname, surtout bien pilé, il faut le préciser.
Oui, très bien pilé.
Messieurs, nous allons maintenant parler d'avenir, de perspectives. Quels sont les projets futurs que vous avez pour le développement du royaume ou les projets que les rois ont mis en place donc, pour le développement de ce royaume?
Pour le développement du royaume, d'abord... Le roi, surtout actuel, Ngueye Bulima, Sa Majesté, a mis une politique pour intéresser les jeunes à la terre. De nos jours, ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé d'avoir un emploi. Alors, intéresser les jeunes à la terre est déjà une très, très, très bonne chose. Voilà son combat. Et ensuite, surtout, envoyer les enfants à bas âge à l'école. Surtout nos filles. Il faut absolument que les filles aillent à l'école. Et ça, le roi y tient comme la prunelle de ses yeux. Plusieurs autres choses qui seront mises en place. Arrivé à Bouna, vous les verrez et vous les constaterez.
Mmh. Et donc, on se rend compte que Bouna, c'est une région qui est quand même très ancrée dans la tradition. Comment est-ce que vous comptez aussi faire la part entre modernité et tradition? Parce que qu'on le veuille ou pas, le modernisme qui arrive, il y a l'Internet, de plus en plus qui se développe. Comment vous comptez gérer ces deux choses?
Oui, c'est gérable. C'est très gérable parce qu'il y a ce qu'on fait en tant que Koulango, typiquement Koulango. Ça, c'est en interne, et il y a ce qu'on fait en externe. Ce qu'on fait en externe, c'est quoi? C'est les relations humaines.
Mm-hmm.
Comment vivre avec nos frères qui sont venus vivre avec nous sans eux. Et ça, c'est au quotidien qu'on vit ça. Et donc, qu'est-ce que le Koulango fait? Le Koulango s'adapte. Il s'adapte, c'est pourquoi le Koulango écoute beaucoup et il parle peu. On s'adapte et on essaie de faire pour que les gens se sentent à l'aise chez nous.
Et donc, à ce propos, quel conseil est-ce que vous pouvez donner aujourd'hui aux jeunes générations du Bounkani pour les aider donc à toujours rester ancrés dans la tradition?
Pour rester ancrés dans la tradition, ça revient à dire comment le petit Koulango est éduqué. Je l'ai dit déjà une fois quelque part, le petit Koulango, à sa naissance, il a des étapes. Chez nous, il n'y a pas de fête de génération comme ici. Le petit Koulangou, il est éduqué jusqu'à l'âge de 30 ans. Mais c'est des étapes. De 0 à 6 ans, vous êtes avec votre maman. Si vous êtes femme ou si vous êtes garçon, vous êtes avec la maman. Mais après 6 ans, le petit garçon commence à avoir des comportements. Donc la mère le détache pour le donner au garçon. Et arrivé là-bas, on doit vous apprendre d'abord comment respecter les anciens. Ensuite, on vous apprend la patience. Mais ça s'apprend comment cette patience. Vous faites le feu où les vieux doivent manger le soir, vous installez les chaises et les taras, et puis vous êtes assis là, vous attendez. Les anciens viennent, ils vont manger. Au moment où ils doivent laver la main, vous tenez la calebasse pour ne pas que ça bouge. Au moment où ils mangent, vous attendez à côté. Interdiction de parler. Vous attendez en silence. Vous avez faim. Mais on fait exprès, ce n'est pas méchant. C'est fait exprès pour apprendre à l'enfant à maîtriser la faim. Parce qu'il est appelé à voyager, c'est un garçon, il est appelé à aller ailleurs. Si tu ne maîtrises pas ton ventre, le reste ne maîtrisera plus jamais. Et donc, on apprend déjà à l'enfant à maîtriser son propre ventre. Ça, c'est de 6 ans à 10 ans, 11 ans. On dit maintenant, ah, il peut laver les mains proprement pour manger avec les grands. Ça veut dire quoi? Vous pouvez maintenant, après le repas, ramasser les assiettes. Puisqu'un Koulangou qui mange avec des gens, vous allez voir que les vieux là ne terminent pas les plats avec les enfants. Ils vont laisser toujours un petit fond pour les plus petits. Alors c'est eux qui vont ramasser les assiettes. En mangeant, on ne vous donne pas un tabouret. Les anciens sont assis sur des tabourets et vous, on ne vous donne pas de tabouret. Tout ça, c'est l'école de la patience et l'école de l'obéissance. Pourquoi on ne vous donne pas de tabouret? Si vous êtes bien assis, vous allez trop manger et vous finissez par être gourmand. Alors, vous allez vous accroupir. Les cuisses viennent prendre appui sur le ventre. Vous ne pouvez pas manger beaucoup. Et vous êtes fatigué de vous accroupir. Vous êtes obligé de manger peu. Et à la longue, vous êtes habitué à manger normalement peu. Voilà. Et donc, c'est des étapes. Quand vous franchissez ça, il y a encore l'étape de voir est-ce que vous pouvez garder une femme? Est-ce que vous n'êtes pas rancunier? Mais ça, il y a plusieurs façons. Mais je vais vous donner un seul. La piste que vous prenez le matin pour aller au champ, vous êtes habitué à aller au champ avec le papa. Cette piste-là, vous la connaissez par cœur. Mais le père viendra un jour, un soir, tard, ouvrir une autre route, en taillant les bois, en taillant les arbres, mais en les laissant pointus. Et puis il prend les feuilles et bouche l'ancienne route que tu connais. Et un matin, vers 5 heures, il te réveille, il dit, bon, allons au champ parce qu'on a assez à faire aujourd'hui. Il ne fait pas encore jour. Arrivé devant, il dit, bon, attention, là-bas c'est fermé, passons par là. Et c'est en passant là, comme tu n'es pas habitué à un arbre qui va te blesser. Ça va saigner. Le père dit, oh là là. Et puis vous allez au champ. Fini le travail, en venant, le père vous observe. Vous allez voir que l'enfant rancunier, il va prendre une hache au champ là-bas, avec machette, d'abat. Arrivé, il va creuser, couper l'arbre qu'il a blessé depuis le matin. Et c'est là le père va te dire, mais attends, l'arbre ne parle pas. C'est toi qui es venu vers l'arbre. Et depuis matin, tu as gardé, tu viens couper cet arbre-là. Tu n'es pas encore mûr. Or, l'homme va parler, l'homme va t'insulter. Tu vas le tuer. Voilà. Donc, c'est des éducations comme ça que le petit Koulangou reçoit. Et il y en a plein. Maintenant, à un certain âge, quand on voit que vous êtes mûr, d'abord, le petit Koulangou n'est pas né pour être célibataire. Si tu as un oncle, tu as le père qui a ses sœurs, vous ne pouvez pas être célibataire. Parce que les cousines sont faites pour les cousins. Ton oncle peut te donner sa fille. Ton oncle peut te donner sa fille. Pareil que le père peut te donner sa nièce. Voilà. Mais si tout ça n'a pas lieu, votre père vous achète un fusil qui remplace votre femme. Pourquoi on donne le fusil? Comme ça, à votre décès, on vous fait des funérailles dignes. Mais si vous n'avez pas de femme, vous n'avez pas de fusil, à votre mort, vos funérailles sont faites comme un enfant de 10 ans, 6 ans, 7 ans.
Donc, dans la culture Koulango, c'est important le mariage?
Très important. Ah, le mariage est très important. Et puis, quand vous vous mariez, il faut payer la dot. Parce que si vous ne payez pas la dot, tous les enfants que vous allez avoir, ce n'est pas pour vous.
On parlait donc des conseils aux jeunes. Aujourd'hui, tous les jeunes Koulango ne sont pas à Bouna, ils sont aussi à Abidjan, ils sont livrés à d'autres réalités. À ces jeunes-là, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil?
Comme toute la jeunesse ivoirienne, hein, on a des étudiants, on a des fonctionnaires, on a tout ce qu'il faut. Mais surtout ce qu'on leur dit à Bouna, revenez de temps en temps à la source. Parce que pour se retrouver au sommet d'un arbre, il faut commencer par le tronc. Si vous êtes au sommet sans tronc, ça veut dire que vous êtes mal assis. Donc, à tous nos jeunes qui sont fonctionnaires, qui sont étudiants, on leur demande chaque fois un retour au village pour aller s'imprégner quand même des réalités du terrain. Et je vous assure que quand ils vont aussi, ils apprennent beaucoup de choses.
Voilà. D'accord. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. Ouattara Daouda, est-ce que vous avez un appel à lancer aux populations donc, pour ces festivités?
On invite toute la Côte d'Ivoire de venir découvrir Bouna, de venir découvrir le royaume du Bunkani, qui regroupe beaucoup de diversité. Toutes les communautés sont y représentées. Donc, on se donne rendez-vous le 29 et le 30 pour découvrir le royaume de Bouna.
Voilà, donc Kedi, on vous invite, chers amis auditeurs, à Bouna, le 29 et 30 novembre, pour fêter donc les 400 ans du royaume du Bunkani. Merci pour votre passage dans nos studios, chers invités, pour ce numéro de Panorama des Régions. Merci énormément, c'était un plaisir de vous recevoir, Ouattara Kifenge, président de la Commission culturelle. Merci d'être venu.
Merci madame.
Et Ouattara Daouda, président de la commission restauration, qui nous a parlé donc des festivités. Merci à vous aussi.
Ce que je vous dirai, le jeune Baoulé qui est derrière l'écran, et vous, vous aurez des pintades et des ignames de la part de Ngaïgoulima, sa majesté le roi de Bouna.
Merci.
Ça, je vous le promets. Merci,
merci
à tous.
Merci. Et donc, à nos auditeurs et auditrices, merci pour votre fidèle écoute. Cette émission a été présentée par Christelle Yesso, écrite par Mel Emmanuel, avec le soutien et la supervision de Junior Cardin, et réalisée par Antoine Kouassi. À la semaine prochaine pour un autre numéro de Panorama des Régions.
Panorama des Régions. Panorama des Régions pour un tour d'horizon des faits marquants toutes les semaines avec nos journalistes en région.